Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour, premier numéro 2019 du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bonne année à toutes et à tous, et particulièrement à vous, Francis Laloupo.
Et particulièrement à vous aussi, Liliane Niacha. Bonne année à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition.
Et voilà, Abdou Diop et François Richard, nos deux réalisateurs à qui je souhaite d'ailleurs une excellente année 2019, me chargent, Francis, de vous dire qu'ils vous accordent à la fin de l'émission quelques minutes pour nous raconter ce que vous avez fait le jour de l'an.
J'espère qu'on en aura le temps.
Bon, ben, l'espace est déjà réservé de toute façon. Et on a hâte de vous entendre. En tout cas, merci à chacun de vous également, chers auditeurs, d'avoir été avec nous en 2018. Et nous comptons plus que jamais encore sur vous cette année. Le Premier ministre gabonais Issoze Ngondé restera-t-il en poste ou sera-t-il remplacé ? Le gouvernement est en sursis et assure juste les affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau cabinet. À la rentrée de la 13e législature, suivie du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale la semaine prochaine, le gouvernement devrait en principe démissionner. Que va-t-il se passer ensuite si le président de la République, Ali Bongo Ondimba, convalescent, n'est pas rentré au Gabon ? Analyse à suivre. En République démocratique du Congo, la commission électorale assure qu'elle fait tout pour pouvoir publier ce dimanche les résultats provisoires de la triple élection du 30 décembre dernier. Mais la CENI a également glissé cette petite phrase qui alimente crainte et doute quant au respect de cette promesse. « À l'impossible, nul n'est tenu », a déclaré son président Corneille Nangaa, qui a confié jeudi que seuls 20% des résultats étaient compilés au 3 janvier. La tension et la pression montent dans le pays où la connexion Internet est bloquée, provoquant de grosses suspicions de manipulation des résultats de la part de l'opposition et d'une partie de la société civile. Les manifestations antigouvernementales de ces dernières semaines, notamment contre l'augmentation du prix du pain au Soudan, pourront-elles avoir un impact sur le pouvoir du président Omar el-Béchir ? Le pays enregistre une vague de protestations. Certains manifestants ont appelé à la fin du régime de Khartoum. Le président Omar el-Béchir a annoncé des mesures pour contrer le mécontentement. Vont-elles suffire à calmer la colère de la rue ? Nous en débattrons. Mais d'abord, le plateau avec vous, Francis Laloupo.
Oui, il y a notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Libreville, Alexandre Barrault-Chambrier, président du parti Rassemblement, Héritage et Modernité, le RHM, parti de l'opposition au Gabon. Alexandre Barrault-Chambrier, monsieur le président, bonjour.
Bonjour, monsieur Francis Laloupo, et meilleurs voeux à toute votre équipe.
Nos meilleurs voeux à vous aussi. Et notre conférencier invité au téléphone depuis Kinshasa, en RD Congo, bien entendu, Mike Mukebayi, journaliste et fondateur du site d'information CNews. Voilà pour le plateau. Ah oui, je vais quand même saluer Mike. Mike Mukebayi, bonjour.
Bonjour Francis.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous Liliane à Dakar.
Et Francis, notre premier sujet, c'est évidemment le Gabon. La présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mboramtso, a fait savoir que les fonctions du gouvernement cessent dès la proclamation par son institution des résultats définitifs des législatives du 6 et du 27 octobre dernier. Ce qui, on le rappelle, a été fait dans la nuit du 27 décembre. Elle a rappelé que cette délibération de la Cour constitutionnelle est conforme, dit-elle, à l'article 34 de la Constitution gabonaise, qui stipule que les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la présentation du serment du président de la République et à l'issue de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle. Alors, monsieur Alexandre Barrault-Chambrier, est-ce que pour vous, cela signifie que dans les faits, le Gabon n'a plus de gouvernement, ou êtes-vous d'accord que celui-ci, c'est-à-dire le gouvernement, continue à assurer les affaires courantes ?
Écoutez, nous arrivons effectivement à la fin de cette phase du cycle électoral et nous constatons que la situation du Gabon est très préoccupante toujours. Hein. Il ne s'agit pas de penser qu'une nouvelle équipe ou de nouveaux hommes vont changer quoi que ce soit. La question de M. Issoze Ngondé importe peu au regard des enjeux de notre pays sera-t-il ou non maintenu, vous devez tenir compte que nous avons une crise multiforme depuis 2016 du fait des élections contestées qui ont été gagnées par Jean Ping. Avec beaucoup d'autres, nous avons tenté de faire en sorte que le choix du peuple soit respecté, mais cela n'a pas été possible. Et Ali Bongo et son groupe ont utilisé tous les moyens pour garder le pouvoir.
Donc, à vous entendre, Monsieur Barreau-Chambrier, vous dites que la question du maintien ou non du Premier ministre actuel, Issoze Ngondé, est accessoire. Vous dites également que le contentieux post-électoral, en substance, ce que vous dites, n'est pas soldé. Mais il y a eu un dialogue, un dialogue politique qui a été organisé. Et est-ce que vous pensez jusque-là que cela n'a pas suffi à sortir complètement le Gabon de la crise et que la prochaine priorité, la priorité du prochain gouvernement serait de travailler à nouveau à la réconciliation?
Effectivement, madame, nous ne sommes pas sortis encore de cette situation de crise du fait que le dialogue a été partial. Il n'y a pas eu véritablement de dialogue. Il y a eu un monologue et avec un renforcement de l'arsenal électoral pour permettre aux partis au pouvoir de pouvoir se pérenniser. Donc, les élections qui se sont déroulées l'ont été dans un contexte qui n'a pas permis la transparence, l'apaisement, et dans ces conditions, le pays se retrouve à la case départ. Hein, je dirais dans l'impasse. Hein, il faut absolument tenir compte de ce que la majorité du pays, contrairement à ce que laisse croire ces élections, n'est pas représentée et qu'il y a un problème de légitimité, quelle que soit la personne qui pourrait être désignée pour succéder à Issoze Ngondé 3, 4 ou 5. Ça ne changera strictement rien au fait que le pays a besoin d'apaisement, le pays a besoin d'être dirigé. Cela fait maintenant plus de 70 jours que Ali Bongo Ndimba a été frappé, nous dit-on, par un AVC. Plus de 70 jours qu'il n'a pas foulé le sol gabonais. Et vous voyez bien que ces dernières apparitions ne sont pas pour rassurer. Et nous avons demandé qu'un collège médical soit mis en place pour évaluer ses capacités physiques, intellectuelles et psychologiques pour faire face aux lourdes charges qui lui incombent. Voilà la réalité.
Merci. Dans celle de nommer le prochain gouvernement. Merci beaucoup, Francis.
Alexandre Barreau-Chambrier, vous avez justement dit à propos de ce que vous appelez cette apparition, c'est-à-dire c'était le 31 décembre dernier, l'adresse du chef de l'État à la nation pour les vœux de la nouvelle année. Vous avez indiqué que cette apparition suscite encore plus d'interrogations et d'incertitudes sur la capacité physique et intellectuelle d'Ali Bongo à exercer les lourdes tâches qui lui incombent. Alors, selon vous, quelle est la portée politique de la mise en place d'un gouvernement aujourd'hui en l'absence du chef de l'exécutif?
Mais justement, elle laisse beaucoup de doutes, de questions et d'incertitudes. Sommes-nous sûrs que la nomination de nouvelles personnalités serait de son fait ou serait de son entourage immédiat qui s'agite beaucoup pour faire en sorte qu'il puisse continuer à être là et à gérer le pays, à prendre des décisions qui, en tout état de cause, ne sont pas pris par lui.
Vous voulez donc dire que pour vous, il y a un doute sur la capacité du président Ali Bongo aujourd'hui à désigner lui-même ceux qui vont, les ministres qui vont composer le prochain gouvernement.
Mais il y a un doute sur toutes les décisions qui peuvent être prises.
Oui.
Sur effectivement la constitution du gouvernement et sur un certain nombre de décisions dans les domaines financiers. Le Gabon reçoit beaucoup de ressources de l'extérieur. Il est évident qu'en étant à Rabat, il ne peut pas vérifier l'utilisation de chaque ressource, hein, ce qui augure de possibilités de gestion non transparente et même de détournement des fonds publics.
D'accord.
C'est extrêmement grave la situation que nous vivons.
Du point de vue institutionnel, c'est la Cour constitutionnelle donc qui a annoncé la fin hein, des fonctions du gouvernement et qui va donc proclamer également les résultats des élections législatives. Ce qui est tout à fait normal. Mais la question est celle-ci. Est-ce que c'est cette Cour constitutionnelle qui est aujourd'hui un peu le chef d'orchestre de l'organisation des institutions dans votre pays?
Mais c'est ce qui transparaît, en tout cas, en l'absence du chef de l'exécutif. La Cour constitutionnelle a eu une interprétation, comme vous le savez, de l'article 13, ou de certains articles pour permettre la tenue d'un conseil des ministres exceptionnel pour redistribuer certains pouvoirs. Nous pensons que cette interprétation était excessive et que la Cour n'a pas le pouvoir de réécrire la Constitution.
Ça, c'est un épisode passé, Monsieur Chambrier. Donc, vous êtes en train de dire, en répondant à la question de Francis, que pour vous, de fait, c'est la présidente de la Cour constitutionnelle qui dirige le Gabon?
Mais ça a tout l'air qu'il y a un partage du pouvoir et qu'elle a une responsabilité qui manifestement dépasse le cadre qui a été établi. Le cadre constitutionnel qui a été établi, c'est très clair.
Mais quelle est l'influence alors de chacune de ces personnalités dont je vais vous citer les noms et donner les fonctions? Le Premier ministre Emmanuel Issoze-Ngondé, la présidente de la Cour constitutionnelle, on en a déjà parlé, Marie-Madeleine Bouramso, la présidente du Sénat, Lucie Milebou-Aubusson, et le vice-président Pierre Claver Manganga Moussavou. Quelle est leur influence de chacune de ces quatre personnalités?
Écoutez, je ne suis pas avec eux pour vous dire exactement.
Ils sont tous au Gabon et ce sont ces personnalités qui occupent de hautes fonctions dans votre pays,
à l'absence
du président de la République.
Madame Bouramso a un rôle de gardienne de la Constitution et de régulation des institutions. Hein, il est clair qu'il y a une hésitation à prononcer la vacance du pouvoir à travers l'article 13 qui devrait faire en sorte que dans une situation d'incapacité du président de la République, pour quelque cause que ce soit, elle devrait normalement, Madame Milebou-Aubusson, assurer l'intérim.
Madame Aubusson, qui est la présidente du Sénat.
Voilà, exactement. Hein, la Constitution prévoit que dans une situation de vide, telle que nous la connaissons actuellement, et où manifestement Ali Bongo ne peut pas faire une intervention de plus de 3 minutes à la télévision, et il est clair que au vu des responsabilités immenses qui incombent à la fonction de président de la République, Madame et les bouts est tout à fait indiqué pour en assurer l'intérim.
Excusez-moi, monsieur Chabrier, de revenir encore avec votre permission, Francis. Alors, vous dites clairement que le Gabon est dirigé, d'après vous, aujourd'hui, par la présidente de la Cour constitutionnelle. En tout cas, qu'elle va au-delà de son pouvoir, qui est celui de protéger la Constitution et de faire appliquer la Constitution. Et qu'en est-il donc des autres personnalités de l'État? J'ai cité le Premier ministre et le vice-président.
C'est un triumvirat, mais c'est un triumvirat qui n'est pas porteur pour la gestion du Gabon, qui essaye de gagner du temps en espérant que, effectivement, l'état de santé du président lui permettrait de revenir, reprendre les choses en main. Mais vous comprenez qu'un pays ne peut pas être dépendant d'une seule personne et qu'à un moment donné, la Constitution est impersonnelle. Il faut considérer l'intérêt général et prendre les décisions qu'il faut. Voilà, quitte à voir après s'il y a une amélioration, pourquoi pas envisager différents cas de figure pour tenir compte de la Constitution.
Merci.
Juste une question, Alexandre Barreau-Chambrier encore. Au-delà du fait, de maintenir coûte que coûte Ali Bongo au pouvoir et de ne pas déclarer la vacance du pouvoir, comme vous venez de le dire, est-ce que vous pensez que ce triumvirat que vous venez d'évoquer a un agenda caché, et lequel ?
L'agenda caché, c'est d'essayer, si la vacance se concrétisait, d'imposer quelqu'un qui soit de leur obédience. Hein. Vous comprenez bien que le PDG qui a perdu les élections présidentielles, qui a trituré le code électoral et favorisé la triche systématique dans les élections, fait tout pour se maintenir au pouvoir alors qu'il y a une forte aspiration populaire qui s'est traduite par le président Jinping, qui a gagné effectivement les élections. Il y a une forte aspiration populaire pour l'alternance.
Et qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Chambrier? Vous-même, vous venez de dire que normalement, d'après vous, la vacance du pouvoir devait être constatée par la Cour constitutionnelle et l'intérim assuré par la présidente du Sénat, Lucie Milebou-Aubusson. Et en même temps, vous semblez dire que l'alternance doit intervenir avec le monsieur Ping.
Mais monsieur Ping incontestablement a gagné les élections présidentielles il y a plus de 2 ans.
Mais quel est votre cas de figure, c'est-à-dire qu'on devait constater la vacance du pouvoir et donner automatiquement le président à monsieur Ping plutôt qu'à la présidente du Sénat?
Je n'ai pas dit cela.
Précisez vos propos, s'il vous plaît.
Je suis en faveur du respect de la Constitution, hein, et que une fois que Madame le Président du Sénat assumerait l'intérim, il est évident que la classe politique devra se mettre autour de la table pour trouver les accommodements nécessaires dans le cadre de la Constitution pour permettre le moment venu qu'une élection démocratique, une élection transparente permette effectivement aux Gabonais de retrouver la légitimité populaire et que le pays reparte sur de nouvelles bases. C'est de cela qu'il s'agit. On ne peut pas, madame, tricher avec le suffrage universel. On ne peut pas maintenir, casser le thermomètre et essayer de maintenir avec une dictature les gens en prison.
Merci beaucoup. On va marquer une pause obligatoire, monsieur Chambrier.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Le débat, Liliane Niacha et Francis Laloupo.
Avec notre grand témoin invité, Alexandre Barreau-Chambrier. Il est avec nous au téléphone depuis Libreville au Gabon. Président du parti Rassemblement Héritage et Modernité, parti de l'opposition au Gabon. Et notre confrère est invité dans cette édition depuis Kinshasa au téléphone, Mike Mokebayi, journaliste et fondateur du site d'information CNews, qu'on écoutera dans quelques instants. Mais avant cela, Alexandre Barreau-Chambrier, je voulais revenir avec vous sur la demande d'un collectif de 14 partis politiques de l'opposition gabonaise qui a demandé lundi dernier la mise en place d'une transition de 2 ans, un président de transition et un gouvernement de transition. Dans quelle mesure pensez-vous que cette démarche peut aboutir dans ce contexte aujourd'hui au Gabon?
Ben, je pense que les réflexions qui ont été faites par ce collectif de partis auquel nous avons pris part, il y a des éléments qui peuvent faire l'objet effectivement d'un consensus et qui sont importants à intégrer. Il est clair que nous ne pourrons pas laisser le parti au pouvoir continuer à organiser les élections tout seul au vu des antécédents que nous ont montré ce parti. Il faut, dans ce pays, il faut plus de justice, plus de transparence et permettre effectivement qu'en dehors de l'introduction de l'argent à grande échelle, qu'en dehors de favoriser les responsabilités dans les commissions électorales et dans les bureaux de vote, que les peuples puissent s'exprimer.
Est-ce que vous croyez réellement que ce consensus est possible aujourd'hui entre l'opposition et le parti au pouvoir au Gabon? Ou alors ce sont juste des vœux pieux?
Non, je pense que les esprits sont en train d'évoluer, y compris au PDG, où il y a des personnes responsables et qui sont à même de penser à l'intérêt général du pays et à la nécessité d'aller vers le choix d'un responsable qui sera accepté par tout le monde.
Merci. On va écouter Francis Mike Mokebayi sur cette ambiance politique au Gabon. Mike?
Oui, je ne crois pas que la solution d'un gouvernement, la proposition d'un gouvernement de transition règle les problèmes. C'est très compliqué quand vous êtes en face d'un pouvoir personnalisé. Quand vous allez vers ce pouvoir en cherchant un comment compromis politique, dans la plupart des cas en Afrique, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que celui qui est au pouvoir en profite à la fin pour mettre en place un gouvernement d'union nationale et débaucher des opposants, affaiblir davantage l'opposition. J'ai craint que cette solution ne profite à Bongo. À la place de l'opposition gabonaise, je crois, j'ai suivi Jean Ping qui parle déjà de 2 années de résistance. Il faut maintenir cette pression et s'organiser pour anticiper sur le prochain scrutin.
D'accord.
Tant que vous n'avez pas un certain contrôle sur le scrutin, vous ne vous en sortez pas. Même dans un gouvernement de transition, si en réalité Bongo reste maître du jeu, ça ne profitera jamais aux Gabonais et à l'opposition gabonaise.
Merci Mike. Parlons justement de scrutin. Encore un mot, Monsieur Chambrier, sur les dernières élections législatives. Vous disiez tout à l'heure que, à cause de la crise née de la contestation de la présidentielle de 2016, le Gabon se retrouve même après le dialogue à la case départ. Mais comment est-ce que vous pouvez affirmer cela? Vous avez par exemple dit que Monsieur Ping a gagné les élections de 2016. Comment pouvez-vous affirmer tout cela et quand même décider d'aller aux législatives d'octobre dernier, organisées par le pouvoir que vous dites illégitime?
Et votre parti a obtenu 4 sièges, je le précise.
Tout à fait.
Oui, tout a été mis en œuvre, effectivement, pour avoir ce résultat.
Non, mais avant le résultat, vous ne pouvez pas dire qu'un régime est illégitime et ensuite participer à une élection organisée par ce pouvoir que vous dites mal élu.
Ben, il s'agissait d'apporter la démonstration que, effectivement, ce pouvoir n'est pas en mesure de changer. Parce que l'impasse dans laquelle nous sommes, elle ne profite à personne, si ce n'est à quelques groupuscules qui essayent d'en profiter. Donc moi, je crois que nous sommes une opposition responsable. Nous avons pris nos responsabilités. Simplement, l'unité n'a pas été au rendez-vous, puisque vous avez vu que il n'y avait pas de consensus nécessaire pour permettre la mobilisation qui aurait permis de faire en sorte que le taux de participation soit convenable pour que ces élections soient légitimes. C'est tout. Et je n'ai jamais dit que nous aurions un gouvernement d'union nationale avec M. Ali Bongo. Il s'agit d'avoir une personne qui assure une transition et qui aura un certain sens des intérêts de l'État pour faire en sorte d'observer le jeu normal de transparence et d'équité à l'occasion des élections. Donc, je ne suis pas en contradiction avec l'interlocuteur qui a fait la démonstration qu'il a tenté de vouloir faire.
Mais qu'attendiez-vous exactement de ces élections législatives? Parce qu'il y avait un contentieux électoral qui n'était pas vidé, selon vous. Vous étiez en face d'un pouvoir dont vous dites que la fraude électorale fait partie de sa culture, pratiquement. Et vous êtes quand même allé à ces législatives pour démontrer quoi, finalement? Pour démontrer, finalement, ce que vous reprochiez initialement déjà à ce pouvoir?
Non, nous sommes... Bon, mais vous savez... Les êtres humains peuvent être mus par un esprit de
ah bon.
Correction et de s'amender.
Ah bon. Ah bon.
On n'est pas Ali Bongo à gagner les élections dans les conditions que tout le monde sait. Il aurait été beau joueur en acceptant de jouer le jeu. Pourquoi pas d'avoir...
Vous espérez un arrangement, c'est ça, un arrangement politique, c'est ça, c'est ça.
Mais, monsieur, dans toutes les situations, on termine toujours par un arrangement. Un arrangement, ça ne veut pas dire une compromission. Hein? En Côte d'Ivoire, le président Gbagbo a organisé des élections qu'il a perdues. Et ça s'est fait parce que il y avait l'unité des forces de l'opposition pour aller aux élections. Donc, ce que vous dites n'est pas exact.
Mais il n'y avait pas d'unité de l'opposition dans votre cas, en tout cas au Gabon, l'unité de l'opposition n'était pas patente.
Hein. L'unité de l'opposition était là en 2016. Elle était suffisante pour faire gagner Jean Ping.
Oui, mais pas aux législatives.
D'accord.
Oui, mais les élections législatives sont des élections d'une autre nature. Vous préférez un parlement avec 20 députés de l'opposition ou avec 0 député?
Oui.
Pour permettre à Ali Bongo et à son groupe, parce qu'aujourd'hui, Ali Bongo, il a d'autres soucis, et nous espérons effectivement que les choses s'améliorent pour lui, mais il n'en demeure pas moins que c'est un système que nous combattons.
Merci.
C'est un système qu'il faut changer.
Monsieur Chambrier, vous parliez de l'unité de l'opposition. Effectivement, en 2016, pendant la présidentielle, Guy Zoubadama, président de l'Assemblée nationale, a démissionné de son poste pour soutenir Monsieur Ping. Aujourd'hui, alors qu'on recherche peut-être un premier ministre pour remplacer Monsieur Issoze Nzong, l'actuel premier ministre, est-ce que vous pensez que Guy Zoubadama pourrait être un bon candidat à ce poste?
Bah, écoutez, il faut lui poser la question. Ce n'est pas à moi de répondre.
Et vous-même, vous avez 4 députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous seriez intéressé, êtes-vous tenté,
madame,
par ce poste de Premier ministre?
Madame, nous ne sommes pas là pour satisfaire des appétits qui seraient personnels. Nous sommes là pour servir notre pays et lui permettre de sortir de cette crise.
Donc vous ne voulez pas, vous n'êtes pas disposé à entrer à un éventuel gouvernement d'union nationale à l'issue des législatives?
Il faut organiser des élections, réorganiser des élections présidentielles, madame. La clé de voûte de notre système politique, c'est les élections présidentielles.
Donc vous excluez toute entrée au futur gouvernement?
Mais madame, nous ne sommes pas dans des discussions, sauf s'il s'agit d'organiser des élections présidentielles transparentes. Voilà.
Le débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Avec notre grand témoin invité depuis Libreville au téléphone, Alexandre Barrault-Chambrier, président du parti Rassemblement Héritage et Modernité, parti de l'opposition au Gabon. Et notre confrère invité depuis Kinshasa au téléphone, Mike Moukebaï, journaliste et fondateur du site d'information CNews. Nous allons justement aller à présent en RD Congo pour jeter un regard sur les lendemains des élections qui sont tenues le 30 décembre dernier, des élections marquées par de multiples dysfonctionnements. Au lendemain de ces élections, une question se pose: à quand la proclamation des résultats provisoires de la CENI, la Commission électorale indépendante? Alors que ces résultats étaient attendus ce 6 janvier, le président de cette commission électorale, Corneille Nanga, a annoncé ce jeudi le report de la date de cette proclamation du fait, dit-il, des difficultés d'ordre logistique auxquelles se trouve confrontée la CENI. C'est dans ce contexte que la conférence épiscopale du Congo, la CENCO, forte d'un dispositif de quelques 40 000 observateurs et sur la base des procès-verbaux recueillis dans des bureaux de vote, a annoncé ce même jeudi que cette organisation détenait d'ores et déjà le résultat de ces élections et donc le nom du président élu, un secret désormais bien gardé par la CENCO afin de se conformer à la loi qui autorise la seule CENI a proclamé les résultats. La CENCO a par conséquent exhorté la commission électorale à respecter scrupuleusement la vérité des urnes. Quelle sera la suite de cette énième séquence du processus électoral et à quoi ressemblera la crise post-électorale redoutée en RD Congo? On va poser toutes ces questions évidemment. Après avoir écouté avec vous, Liliane à Dakar, un élément sonore de la BBC.
Oui, Francis, et il s'agit d'un élément du correspondant de BBC Africa à Kinshasa, Poli Mousalia, qui revient sur une rencontre avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, qui affirmait cette semaine que seule la commission électorale est habilitée à donner des résultats. On écoute.
D'après la loi congolaise, seule la commission électorale est autorisée à publier les résultats, rappelle Lambert Mende, le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement.
Je voudrais, au nom du gouvernement congolais, rappeler ici qu'au terme de la constitution et des lois en vigueur en République démocratique du Congo, seule la commission électorale nationale indépendante, CENI, est habilitée à annoncer et publier les résultats des votes.
Corneille Nanga, le président de la commission électorale, a lui aussi mis en garde contre la publication des résultats par des personnes ou des organisations autres que la commission électorale.
Toute proclamation fantaisiste des résultats des élections par des partis, regroupements ou tel autre média enfreint l'article 71 de la loi électorale qui donne cette prérogative au seul président de la CENI ou son remplaçant.
Juste après les scrutins de dimanche dernier, l'accès à Internet a été coupé à travers le pays. Le signal d'une télévision proche de l'opposition ainsi que celui de Radio France Internationale ont été brouillés. Ces deux médias sont accusés d'avoir publié les résultats en violation de la loi. Poli Mousalia, Kinshasa, BBC Afrique.
Merci beaucoup. On va se tourner avec vous, Mike Moukebaï. Vous êtes à Kinshasa. Quel est le climat avec cette drôle de situation, avec la CENCO qui dit détenir le nom du vainqueur de l'élection et qui met en quelque sorte la CENI, c'est pas une injonction en tout cas, demande à la CENI de se conformer à la vérité des urnes.
Oui, d'abord la date du 6 ne sera pas respectée. Nanga disait hier qu'il avait consolidé des résultats que dans à hauteur de 20%.
C'est
dans
jeudi.
Dans beaucoup de centres de compilation, le travail ne commence que ce vendredi. Donc c'est évident, il lui a manqué juste le courage de reconnaître qu'il ne pourra pas publier les résultats dimanche et de délivrer une nouvelle date aux Congolais. Bon, la question de la CENCO est une question fondamentale. Sur le plan légal, Nanga, comme Lambert Mende, le ministre de l'Information, ont tout le droit de revendiquer que seule la CENI a le pouvoir de publier le résultat. mais sur le plan sociologique, au jour d'aujourd'hui, les regards sont tournés vers la CENCO. Donc ce qui risque de se passer, c'est que si les résultats de la CENI ne rencontrent pas ce que la CENCO détient entre ses mains, la CENCO par la suite publiera ses résultats à elle et nous allons entrer dans une grave contestation dans ce pays. Sachez que c'est la première fois que l'Église catholique s'organise pour obtenir des résultats par ses propres voies. En 2006 déjà, le cardinal Defunt et Chou Père Son Âme avaient contesté les résultats des élections. En 2011, le cardinal Mossengo également. Mais en ce moment-là, l'Église ne pouvait pas aller plus loin qu'une simple contestation pour la simple raison qu'elle n'avait pas placé de témoins. Cette fois-ci, comme vous l'avez dit vous-même, elle a placé plus de 40 000 témoins. Elle dispose donc de preuves matérielles pour prouver le contraire à Nanga si jamais il ne respecte pas la vérité des urnes.
Alors comment expliquer, Mike, techniquement, la CENCO ait pu aboutir à la compilation des résultats et aux conclusions du vote, alors que la CENI affirme n'avoir réalisé à ce jour, à la fin de cette semaine, que 20% du dépouillement?
Bon, ce qui est vrai, c'est que l'Église avait mis un personnel assez important quand on parle de 40 000 observateurs qui ont par la suite transformé leur travail en consolidation de résultats. Ils ne pouvaient qu'aller plus vite que la CENI, qui travaille avec un personnel très réduit. Le plus grand problème de la CENI, c'est un problème de moyens. Ce régime est plus préoccupé par la prédation, l'enrichissement personnel, que par le problème du Congo. Il y aurait eu un personnel conséquent qu'on ne prendrait pas autant de jours.
Mais dites-moi, Mike, est-ce que la CENI est dans ce rôle? Parce qu'on voit la CENI aujourd'hui. La CENCO, pardon, tout à fait, Francis. La CENCO se comporte en quelque sorte un organisme de surveillance du vote des électeurs en lieu et place des partis politiques qui ont justement ce devoir-là.
Nous avons une particularité dans notre pays, une particularité sociologique, c'est que l'Église s'est beaucoup impliquée dans la lutte pro-démocratie depuis les années 90. Souvenez-vous de la marche des chrétiens qui avait abouti à des dizaines de morts. Souvenez-vous des différentes manifestations.
Oui, justement, on connaît le rôle de la CENCO.
Vous ne pouvez pas empêcher à une force sociale de jouer un rôle. Du moment que le régime en place a perdu et légitimité et crédibilité.
Non, je veux dire, la CENCO joue aujourd'hui le rôle des partis politiques, c'est-à-dire elle remplace les partis politiques qui ont échoué sécurisation du vote des électeurs. C'est bon, le sentiment qu'on peut avoir. Les partis politiques qui ont plus de militants, normalement, devraient être en mesure de faire le travail de la CENCO. Si la CENCO le fait aujourd'hui, est-ce que cela ne signifie pas que ces partis ont échoué?
Ben, je peux vous dire oui, dans une certaine mesure. C'est vrai que les partis ont des militants disséminés un peu partout dans le pays, mais ils n'ont pas la même capacité d'organisation que l'Église, qui a des fidèles qui sont tous cristallisés autour de paroisses, beaucoup plus faciles à organiser. Donc je dirais que les partis...
La mission d'observation de la CENCO est une mission officielle et reconnue ou pas par la commission électorale?
C'est une mission comme d'autres. Il n'y a pas que la CENCO qui a placé des observateurs. La SADC en a placé, l'Union africaine. Mais la particularité avec la CENCO, c'est que la crise qu'il y a dans l'opinion congolaise face à ce gouvernement, la crise de confiance, c'est que sociologiquement, l'opinion suivra ce que la CENCO dira. Ce sera ça qui sera...
Et justement, ce qu'a dit la CENCO, est-ce que cela pourrait dissuader la CENI sur une éventualité de manipulation des résultats?
Je ne saurais répondre à la place des Nanga, mais ce que je veux vous dire, c'est que pour deux gens qui ont pillé le pays à ce point, il est difficile qu'ils reconnaissent un jour et qu'ils disent que nous sommes disposés à partir. L'instinct de survie est tellement grand chez Kabila et ses hommes, ils peuvent peut-être risquer d'aller à l'encontre de la vérité des urnes.
Merci. Francis, je propose qu'on écoute l'invité.
Oui, Alexandre
Barreau-Chambrier. Le blocage de la connexion Internet.
Alexandre Barreau-Chambrier.
Oui.
Vous êtes là? Vous écoute.
Oui. Alors, avant de parler justement du blocage d'Internet, un mot peut-être quand même sur cette situation en particulier, Monsieur Chambrier, où voilà, on voit que des observateurs d'élections se montrent plus efficaces dans l'appréciation du vote et des résultats qu'une commission électorale. Qu'en pensez-vous?
Ça dépend de la volonté de la commission électorale de jouer son jeu, de jouer son rôle pleinement. Et je crois que les observateurs électoraux, dans le cas du Gabon, et j'imagine au Congo aussi, sont en train de jouer un rôle important. Hein. Il faut nécessairement la présence de ces observateurs pour crédibiliser aussi les élections. Hein, et j'espère qu'au-delà des analogies avec le Gabon, que la CENI pourra dire les vrais résultats. En tout cas, je le souhaite pour la RDC. C'est un pays que j'ai bien connu à l'époque où j'étais au Fonds monétaire international. J'ai vu l'arrivée du président Kabila sur la scène et je peux vous dire malheureusement que c'est beaucoup de désillusions pour ce peuple courageux, laborieux et ingénieux. Et je leur souhaite le meilleur.
Et quand vous voyez autant l'implication de l'Église catholique dans la politique, quand vous faites le parallèle avec votre pays, le Gabon, quel est votre commentaire, M. Chambrier?
Je me dis que l'Église catholique en RDC a tout à fait raison de s'impliquer. Hein, dans toutes les religions, la justice est au premier plan. Hein, et l'Église ne peut pas se satisfaire de voir les fidèles ne pas être pris pleinement en compte dans leurs devoirs citoyens. Donc, ce débat, nous l'avons eu, et je crois qu'il y a des évolutions aussi positives au Gabon dans ce sens. L'Église est un acteur à part entière, et qui, dans le cas de la RDC, fait honneur, et je crois que le pape lui-même a prié pour la RDC.
Merci. Mike, en quelques mots, très rapidement, sur le blocage du réseau Internet, on a suivi beaucoup de condamnations, mais comment on constate souvent aussi à quel point les dégâts irréparables que peuvent causer les fausses informations sur les réseaux sociaux, est-ce que cela ne peut pas, peut-être à défaut de cautionner, mais au moins être une raison de comprendre la décision des autorités congolaises de bloquer Internet?
Non, ça ne peut pas être une raison qui peut amener à une certaine compréhension. Vous pouvez vous imaginer déjà toutes ces entreprises ici qui, pour fonctionner, ont besoin d'Internet. Imaginez un peu les manques à gagner. Et d'ailleurs, cette démonstration démontre que, en fait, les régimes Kabila laissent les pays dans la ruine. Vous savez, si le pays marchait, que toute l'économie tournait, vous ne pouvez pas interrompre Internet, ne fût-ce qu'un jour, vous avez un manque à gagner $1 milliard tout de suite. C'est très très grave, il n'y a pas de justification possible. Les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont, partout au monde. Il y a à boire et à manger dans les réseaux sociaux, difficile de le contrôler. Mais si pour cela, ça devient une raison pour le couper, ça signifie qu'à un moment donné, partout au monde, il faudra bien le couper, les réseaux sociaux.
Merci, surtout que l'opposition et la société civile soupçonnent les autorités de vouloir manipuler les résultats des élections. Francis, peut-être très rapidement, sans transition, on va passer au dernier sujet. Le Soudan, les mesures dont un programme d'augmentation de salaire à partir de ce mois, annoncé jeudi par le président soudanais Omar el-Béchi, peuvent-elles mettre fin aux manifestations? Ces dernières semaines, le président soudanais, depuis cette dernière semaine, il fait face à une fronde populaire. Les manifestants dénoncent la vie chère, une pénurie de liquidités et de carburant dans un contexte de détérioration de la situation économique. Des manifestants et opposants ont été arrêtés et on parle d'une vingtaine de morts de sources officielles. Certains demandent carrément la fin du pouvoir du président Béchir. Monsieur Chambrier, est-ce qu'on peut parler de clap de fin pour le président Béchir ou pensez-vous que ce mouvement social sera bientôt terminé grâce aux mesures annoncées jeudi?
Madame, je ne peux pas vous répondre de manière précise sur ce point. Ce que je peux vous dire, c'est que la répression ne peut pas être une réponse par rapport aux revendications légitimes des populations. On ne peut pas maintenir les populations sous une chape de plomb indéfiniment et ne pas répondre à la demande sociale. Je crois que
des mesures ont été prises. Est-ce qu'elles peuvent mettre fin à la crise?
Bon, mais écoutez, c'est l'avenir qui le dira. Si ces mesures sont partagées et appréciées par ceux qui manifestent et qui exposent leur vie tous les jours, ben, nous verrons. Mais il est clair que, comme pour les deux pays que nous avons abordés, il y a une aspiration très forte à des changements, à la démocratie, à des respirations, et que nous sommes usés, qui n'arrivent pas à répondre aux préoccupations des gens, mais voilà ce qui
Merci.
Arrive.
Justement, Mike Moukebaï, parce que ce mouvement, ce mouvement social a dépassé désormais la question sociale, puisque ceux qui manifestent demandent très clairement la démission de Omar El-Béchir. Après des années de crises multiples, on se souvient évidemment de la guerre au Darfour, la sécession du Soudan du Sud, le président aussi lui-même accusé de génocide, de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis durant cette guerre du Darfour. Aujourd'hui, donc, il y a cette crise sociale. Est-ce que c'est pas au fond, comme le disait justement à l'instant Monsieur Barreau Chabrier, comment dire, le résultat d'une usure du pouvoir, pour un régime qui est en place depuis 25 ans et qui n'offre aucune perspective d'alternance?
Ah, c'est ça vraiment. Vous avez mis le doigt dans la plaie. C'est vraiment le résultat d'une usure. Et ce n'est plus une grogne sociale, c'est maintenant une contestation politique, une aspiration, une demande à un changement profond. Donc je crains fort que les mesures qui ont été prises n'apportent pas d'apaisement. Parce que, la crise a commencé il y a longtemps, le régime n'a pas pensé y répondre. Et quand vous arrivez à une situation tendue comme celle-ci, c'est pas des demi-mesures annoncées à la télévision qui vont contenter une population qui, en réalité, s'est dit que là, c'est vraiment le ras-le-bol et il faut changer profondément la société politique. Donc, je me dis à moi, je ne peux pas préjuger de l'issue. Partout, il y a eu des mouvements de ce genre. On a vu des changements en Tunisie, mais on a vu, par exemple, en Syrie ou au Yémen, le même mouvement prendre une autre tournure, mais je crains fort que la crise ne se poursuive et qu'elle se termine de manière tragique pour...
Et que cela puisse emporter peut-être le président. Mais justement, vous parliez de contestation,
c'est là que je parle de fin tragique pour
de tension sociale qui devient tension politique. Est-ce que vous pensez que cela peut-être va dissuader le président Béchir à se porter candidat en 2020? C'est vrai que son parti l'a désigné en août dernier comme son candidat pour un troisième mandat alors que la Constitution l'interdit. Est-ce que cette vague sociale peut peut-être le dissuader et peut-être pousser à un retrait à cette élection de 2020?
Ça ne va pas le dissuader. Il a une épée de Damoclès sur la tête. C'est la CPI qui l'attend. Et au fond, il s'est dit que la seule façon de se protéger contre la CPI, c'est de rester aux affaires. Ça ne le dissuadera pas. Ce n'est pas que je suis absolu, mais je ne vois pas de nuance à faire là-dessus. Il va chercher à se maintenir pour au moins échapper à la CPI infiniment, comme il a réussi à le faire jusque-là.
Et sauver sa peau.
C'est plus fort que tout le reste pour...
Et sauver sa peau, ça veut dire qu'il faut craindre peut-être aussi, une fois de plus, un nouveau cycle de répression dans le pays.
Ah, il faut vraiment les craindre. C'est un peu comme un animal, une bête sauvage en cage qui n'a d'autre choix que... de mordre pour se défendre.
Entre le marteau et l'enclume.
On va écouter nos auditeurs à présent qui nous ont envoyé des messages, bien sûr, sur Facebook. Messages recueillis et livrés à présent par Richard Thierry Mboué Kijina.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Gabon, Albert Sangaré se demande ce que compte faire l'opposition maintenant que le président Ali Bongo a fait taire les spéculations sur son état de santé et annoncé son retour au pays dans les prochains jours. Et Télé Gomba Barry de le suivre en fustigeant qu'à part supputer sur la santé d'Ali Bongo, que propose concrètement l'opposition. Quant à Charles Bazema, il aimerait savoir pourquoi est-ce que le président Ali Bongo ne termine-t-il pas sa convalescence dans son pays. Et Charles Bazema de poursuivre sa réflexion sur la République démocratique du Congo en questionnant la décision du gouvernement de plonger le pays dans une autarcie numérique et appelle notre grand témoin à nous donner son avis sur la commission électorale nationale indépendante. Didos Didier Afodo, pour sa part, se demande à quoi serviront les premiers résultats quand l'on sait que le scrutin ne s'est pas tenu dans certaines zones du pays. Et enfin, sur le Soudan, Diara Kamnoum pose la question suivante à notre grand témoin de ce jour. Pensez-vous, M. Barrault, que le régime d'El-Béchir est sur sa fin? Merci à Gérard Rouchelieu et Idrissa Maïga Didri qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat. BBC Africa et sur Twitter à @débat. BBC Africa et bonne année à tous.
Bonne année,
merci
Richard.
Merci à vous également, Richard.
Une conclusion, s'il vous plaît, monsieur Alexandre Barrault-Chambrier, pour terminer l'émission, c'est la tradition.
Et je vous remercie et je pense que nous avons pu voir que dans le cas des trois pays qui nous intéressaient, il y a un besoin de démocratie, un besoin de respiration. Et je crois que l'opposition dans ces différents pays joue un rôle important pour tenir compte des besoins réels des populations, pour qu'il y ait cette alternance qui permette que les richesses du pays puissent bénéficier au plus grand nombre et que le choix des électeurs soit respecté. Donc, nous ne supputons pas sur la santé du président actuel.
Ouais, c'est ce que disait Télé Gomba Barry, l'auditeur.
Nous voulons simplement que notre pays soit géré convenablement au plus haut niveau et qu'on ne profite pas de ces périodes de vide institutionnel, comme c'est le cas, pour faire n'importe quoi et faire aboutir des décisions qui seront dommageables pour le pays.
C'est
notre rôle, c'est notre devoir de vigie et de faire en sorte que notre pays puisse s'inscrire dans la modernité et le progrès social.
Vous êtes d'ailleurs le président du parti Rassemblement Héritage et Modernité. Merci Alexandre Barrault-Chambrier d'avoir été notre invité dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Merci également à notre confrère Mike Mukebayi, journaliste et fondateur du site d'information CNews qui est avec nous depuis à Kinshasa au téléphone. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop. La régie technique a été assurée à Paris par François Richard. Chargé de production, Richard Thierry Mbouekidina. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, pour une nouvelle édition.
Merci bon Francis et merci, bon week-end à vous. Et je constate que vous vous êtes débrouillé à ignorer la minute que vous avez accordée à nos techniciens.
Imparti,
voilà. Bon, d'accord, on remettra ça, je vous promets, cher auditeur.
Je vous le promets aussi.
Francis nous racontera bien un jour son 1er janvier dernier. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.